Ah ben, ils sont bruyants ce soir, ils seront bons, hein. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Jouvet.
Monsieur le baron de Thundertentronk, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château un grand coup de pied dans le derrière.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Nous allons parler du théâtre.
Tout oui, l'émission radio de Théâtre plus Cinéma, scène nationale, Grand Narbonne.
Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à deux inconnus.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Que c'est beaucoup d'inconnus.
Il en est du théâtre comme de la passion. On en parle avant ou après, mais pendant la passion même, il y a trop à faire, on n'en parle pas, voyez-vous.
Une émission de Marion Thibat en collaboration avec Marie Closet et Étienne Noiseau et en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Languedoc et Radio Marseillette. Bonjour à vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission intitulée « Postiches et acrobates » en compagnie de deux jeunes artistes. Pour les postiches, c'est vous, Marie Claveguera-Pratz, metteuse en scène de théâtre, dont la dernière création « Gang, une histoire de considération » est à l'affiche de Narbonne. Et pour les acrobates, c'est vous, Maroussia Diaz-Verbeek. Vous êtes circographe, c'est-à-dire metteuse en scène de cirque, mais vous en parlerez tout à l'heure. C'est aussi une création à l'affiche à Narbonne, FIC, ce qui signifie « réveille-toi » avec la troupe acrobatique de Tanger. Alors avant d'évoquer l'univers du cirque, j'aimerais qu'on commence par évoquer le gang des postiches, Marie Claveguera-Pratz, parce que vraiment je me suis posé la question, vous voyant si jeune, pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette histoire qui, pour ma génération, a défrayé la chronique? Bien sûr, tout le monde, disons passé la cinquantaine, connaît très bien l'histoire du gang des postiches et en a beaucoup ri aussi à un moment donné, un peu moins ri à un autre moment, parce qu'il y a des moments tragiques dans leur histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une jeune metteuse en scène d'aujourd'hui, originaire des Pyrénées-Orientales, s'intéresse au gang des postiches?
Alors, moi, cette histoire m'a intéressée d'une part parce que j'ai eu une rencontre avec un détenu, qui était un ancien braqueur de banque, oui, et qui donc je faisais des interventions au centre pénitentiaire de Perpignan, et qui m'a demandé quel était mon métier, et de lui apporter les précisions sur cette activité professionnelle que j'ai, qui est la mise en scène. Et donc il a fait une comparaison entre nos deux savoir-faire, lui braqueur de banque et moi metteuse en scène, comme quoi finalement on avait vraiment la même activité qui était de savoir s'entourer des personnes avec des compétences spécifiques et techniques pour réaliser notre projet. Donc lui c'était braquer une banque et puis moi c'était braquer en tout cas un théâtre. Et quand je dis braquer, c'est vraiment regarder différemment, changer de direction et inviter les gens à regarder les choses différemment, quoi. Mmh. Voilà. Et donc l'histoire des postiches est née de là, puisqu'il y a encore un des postiches qui est encore en prison. J'ai cru que c'était lui. Finalement, non, c'était pas lui, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vraiment voulu travailler autour de ces postiches des années 80 parce que je crois qu'il est impératif dans une société d'avoir des braqueurs, que ce soit des metteurs en scène ou des braqueurs de banque, en tout cas des êtres qui nous invitent à regarder les choses différemment. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, en tout cas, on a de moins en moins de braqueurs de banque, et je crois que c'est grave. Pour nous.
Voilà. Bon, c'était une bande de bandits inventifs, hein, très célèbres évidemment, qui dévalisaient les banques en plein jour, habillés en bourgeois, grimés avec des postiches, et qui disaient en entrant « contrôle du fisc » et non pas « c'est un hold-up ».
Ouais.
Bon, alors on va écouter l'un des postiches, c'est Bichon, puisqu'ils avaient tous des surnoms, aussi ça fait partie de l'histoire. Hein. De son vrai nom, c'est Robert Marguerite. Et lui, une fois sorti de prison, il s'est installé en Thaïlande. Il est allé rejoindre sa fille. Extrait d'une émission de France 3 en 2012, Grand banditisme. Il parle là de l'attaque de la bourse. C'est sur une musique de votre spectacle, Marie Claveguera-Pratz, signée Olivier Pau.
J'étais en train de remplir les sacs de lingots d'or. On avait pris 34 lingots d'or à l'époque. Des pièces d'or, des billets. On avait pris et les flics sont arrivés. Il restait encore des lingots de 13 kilos et tout à l'intérieur. On n'a pas pu les prendre. On était obligé de sortir. On est sorti et en sortant, on arrive dans la Mercedes. On avait une belle Mercedes, une grosse. grosse, grosse Mercedes grise, qui a 400, qui était super jolie, là. Et arrivé là, je m'aperçois qu'ils ont oublié, là, parce que moi, je leur avais donné les sacs d'or là, par le haut de la trappe. Et je m'aperçois, qu'est-ce que je fais? Je pense pas à rien, je retourne dans la banque. Et quand je retourne dans la banque, je braque les gens de la banque, je me baisse pour ramasser le sac, et à ce moment-là, un des employés de la banque vient et me tire dessus. Et à ce moment-là, je réplique au 1143, je lui tire dessus aussi, et je prends le sac quand même, et je m'en vais avec, les flics me tirent dessus, tout ça, ça passe, quoi. Et j'arrive, je remonte dans la voiture, on se sauve, là. Et là, je prends deux balles. Je prends une balle dans la main, une balle dans la cuisse. Je saigne, on se sauve avec un otage, qu'on relâche plus loin.
Lors de ce hold-up, un homme en face de la banque avait un appareil photo et a pris tout le déroulement de la scène. Le lendemain, dans les journaux, il montrait les photos du hold-up. On voyait pas nos visages car on était cagoulés.
Marie Clavaguera, quelle voix! Quelle voix!
Ah oui, ouais. Hein? Incroyable. Justement, ça a été un travail que j'ai voulu aussi faire, parce qu'il y a la voix et la langue aussi par exemple de cet être, Bichon en tout cas. Comment arriver à redonner ce vécu?
Cette gouaille.
Ouais, c'est ça. Sans forcément la caricaturer. Et en même temps, moi j'aime bien l'absence de mots. Qu'on ressent vraiment dans cet extrait et notamment dans plein d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires sur eux ou beaucoup d'enregistrements, notamment de Robert Marjory. Et c'est vraiment ce rapport à la langue, à ce qui n'est pas dit, ce qui est dit, ce vocabulaire. Et on perçoit à cet endroit-là d'où ils viennent, le point de départ et l'origine de ces êtres-là, de ce groupe qu'ils vont former, le milieu social. Voilà.
Pour la distribution, vous avez fait comment? Parce que je sais qu'il y a un comédien qui est handicapé, qui est trisomique.
Oui.
C'est un vrai comédien qui fait partie de la compagnie La Bulle Bleue, qu'on a déjà vu sur scène d'ailleurs ici dans une mise en scène de Nicolas Heredia.
Oui.
Et vous l'avez choisi. Pourquoi l'avoir choisi? Vous avez aussi choisi des femmes alors que c'est une bande de mecs.
Oui. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est une bande de mecs bien virils et moustachus, quoi. Et moi, j'ai justement cherché à en tant que braqueuse, en tout cas, donner à voir ce qu'on ne voit pas forcément à la lumière aveuglante, et donc donner à voir l'envers du décor, ce qui se cache derrière les masques. Et pour le coup, une distribution de 5 bonhommes virils et moustachus ne m'intéressait pas. Et j'ai préféré effectivement choisir des êtres dont leur singularité ou leur fragilité ou leur faille, non pas qu'une femme est plus fragile qu'un homme ou qu'un jeune comédien trisomique le soit aussi, mais en tout cas... Pour moi, ils sont plus forts dans la capacité à révéler ce qu'on cache, ce que n'importe quel citoyen ou citoyenne cache et ne donne pas à voir, quoi.
Alors, j'ai senti moi aussi que j'ai pas vu votre création. C'est une création, donc bien sûr, on la découvrira sur scène. Mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes affranchi complètement, c'est ce que vous dites là, du réalisme.
Ah, complètement.
Parce qu'ils étaient très théâtraux. Ils avaient mode opératoire totalement, c'était un scénario dans le mode opératoire. Ils faisaient toujours pareil, Nadia.
Oui, oui. Et il se peut que, par exemple, beaucoup de personnes me disent que c'est invraisemblable ce que j'ai écrit, alors que moi, je me suis vraiment inspirée de l'histoire réelle. Par exemple, comme anecdote, ils ont leur dernier braquage s'est effectué dans la même rue que leur tout premier braquage. Bon, bah ça, si on invente ça scénaristiquement, franchement, tout le monde va nous tomber dessus, quoi. Enfin, il y a que ça. Ça n'arrête pas de pleuvoir, ces évidences-là. Mais
il faut quand même rappeler qu'ils ont réalisé 27 braquages.
Au minimum. C'est-à-dire
en 5 ans, ceux qu'on connaît.
Oui, ceux qu'on connaît. Et aussi se dire qu'il y a eu d'autres personnes qui leur ont piqué l'idée et qui ont fait d'autres braquages avec leur mode opératoire, qui se sont fait arrêter. Mais ce n'était pas eux, en fait, finalement.
C'était la mode.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et donc quand même pour cette idée du théâtre qui est une forme de braquage consenti des sens et de l'esprit, c'est ce que vous dites, ça se sent dans la mise en scène?
Ah oui, complètement, puisque moi dès le début j'invite les spectateurs à observer, c'est-à-dire dans le noir, et à considérer la boîte qu'on est en train de regarder, cette boîte noire qui moi m'obsède,
le théâtre.
Qui est le théâtre, et de voir l'ouverture de cette boîte-là. Et donc, en effet, on est dans un rapport... j'ai pas voulu travailler sur une scénographie, on va dire, réaliste, datée des années 80, ne serait-ce que pour les costumes, etc., etc., mais au contraire, invoquer le théâtre et sa boîte noire, sa magie, et tout le rêve et l'onirisme qui peut apparaître à cet endroit-là. Et donc, il y a différents supports, mais on est vraiment dans une ère de jeu très ludique pour n'importe quel théâtreux, on va dire, dans le choc des sens qu'on cherche à faire percevoir. Quoi.
Y compris le coffre-fort est une boîte noire, parce qu'en fait, il perçait les coffres-forts.
Oui, c'est ça. Et donc là, nous, l'équipe, on va inviter les gens à percer, à regarder ce coffre-fort. Et donc, il y aura différents moyens. Il y aura de la vidéo qui va nous permettre de voir différemment, mais il y aura aussi tout un rapport au théâtre noir avec des éléments, enfin, comment la magie peut apparaître dans le noir, quoi.
Après la pluie de Daniel Mill, je trouve que c'est une musique qui nous met dans l'ambiance de cette époque-là, c'est nostalgique. Marion Fouillant-Bousquet, vous êtes la directrice de cette maison. C'est important pour vous de faire confiance, évidemment, à de jeunes artistes. C'est un pari à chaque fois. Parce que la création, elle est toujours... Vous ne l'avez pas vue.
C'est vrai que c'est une aventure. C'est ça qui est intéressant. En fait, au départ, il y a une idée, un désir, un questionnement d'artiste, en tout cas quelque chose d'original. Et puis on s'en parle, et puis il y a tout le montage de la production. Il y a tout un réseau de directeurs et de directrices de théâtre qui s'intéressent au boulot, qui voient des étapes de travail, et puis qui finalement deviennent, et c'est le cas de la scène nationale Grand Narbonne, coproducteurs. Donc il y a des temps de résidence qui sont accueillis, parfois on assiste à un bout de travail, on voit un extrait de lecture, et puis on va le découvrir ensemble, effectivement. Donc ça joue à Perpignan, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier, à Angers, à Poitiers, à Narbonne, bon voilà. Et en tout cas, ouais, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Marie Clavaguerra-Pratt, elle nous a convaincus avec son histoire de considération. Et on en devient un peu responsable aussi, même si on ne se mêle pas du tout de l'artistique. Mmh. Après, ce qui est bien, c'est qu'en parallèle, il y a un travail aussi de territoire, que la metteuse en scène est venue aussi ici à Narbonne pour travailler avec le lycée Lacroix, où il y a des lycéens qui ont choisi le théâtre comme une discipline essentielle de leur parcours de lycéens. Et qu'avec Marie, ils travaillent sur la pratique du théâtre, sur la découverte de ce que c'est qu'un processus de création professionnelle. Et ils sont avec nous dans cette aventure. Donc on va le partager ensemble avec la jeunesse aussi. Et ça, c'est important.
Et c'est bien la notion de découverte aussi. Ouais, ces spectacles que vous proposez au public, qui ne sont pas des spectacles forcément connus, reconnus, mais qui sont des spectacles qu'on peut découvrir.
Absolument. Et puis c'est hyper important que dans une saison où il y a une grosse trentaine de spectacles et une douzaine de spectacles de théâtre, il puisse y avoir à côté d'œuvres présentées par des grosses institutions comme la Comédie Française, le Festival d'Avignon. Il y ait à proportion importante des créations originales de théâtre contemporain par des artistes non encore connus du grand public.
La Geronimo.
Y'a la Ducapri.
Vous êtes bien à l'écoute de Tout Oui, l'émission radio de Théâtre plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux jeunes artistes, Marie Clavaguerra Prats pour le théâtre et Maroussia Diaz-Verbeck pour le cirque, à l'occasion de son spectacle FIC, avec le groupe acrobatique de Tanger.
Marhaba, goulou marhaba, marhaba, ya rijalilla. Marhaba, walla blitouni, marhaba, wache tsalouni. Marhaba, walla blitouni, marhaba, wache tsalouni.
Maroussia Diaz-Verbeck, vous êtes venue de Paris pour être ici aujourd'hui, mais en réalité, vous êtes très contente d'être à Narbonne parce que votre père habite ici. C'est un peintre d'origine espagnole dont on a vu une belle expo ici à la salle des Synodes il n'y a pas si longtemps, Léon Diaz Ronda. Je ferme la parenthèse. Et vous avez donc été invité par le groupe acrobatique de Tanger pour créer avec eux un spectacle à l'affiche à Narbonne. Vous êtes vous-même acrobate, vous faites de la corde souple, de la corde volante, vous marchez au plafond.
Oui.
Sans tomber ?
Ben ouais, ouais, j'ai pas le droit de tomber.
Vous avez été formée au Centre National des Arts du Cirque. Alors comment ça s'est passé ? Vous êtes allée à Tanger, qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous avez eu carte blanche pour...
Oui, alors j'ai rencontré Sana El Khamouni qui dirige le groupe acrobatique de Tanger, qui l'a monté, qui le porte depuis 17 ans maintenant. Et elle m'a vraiment invitée au Maroc plusieurs fois et on a plongé avec elle dans cette culture et puis dans les questions du cirque et de l'acrobatie marocaine, parce qu'en fait il faut savoir que il y a une acrobatie spécifiquement marocaine qui vient d'une tradition spirituelle et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui est vraiment fondée sur le cercle, les acrobaties en cercle et en vitesse qui s'approche de la transe, et aussi un style particulier de portée de pyramide humaine. Et elle a monté cette compagnie il y a 17 ans parce que il y avait beaucoup d'artistes traditionnels, mais pas de création contemporaine et surtout une visibilité pour eux. Et elle organisait ces rencontres et ces mélanges entre des artistes contemporains et cette tradition.
Et l'acrobatie marocaine, c'était beaucoup des hommes ?
Alors oui, évidemment, c'est beaucoup des hommes, parce que dans la religion, être une femme et montrer son corps en mouvement devant d'autres hommes, c'est compliqué. Alors c'est quelque chose qui bouge, et surtout, étant deux femmes, on était particulièrement sensibles à cette question de donner de la place au maximum de femmes. Et c'est pour ça que là, il y a un tiers de femmes dans l'équipe. Donc ils sont 15 sur le plateau et il y a un DJ. Il y avait une nouvelle génération en fait d'artistes, et beaucoup plus divers aussi dans les arts acrobatiques, parce que les arts urbains se sont beaucoup développés avec le breakdance et donc avec le parcours. Il y a eu beaucoup de nouvelles disciplines auxquelles moi je suis très sensible parce que je suis très curieuse, puis je pratique aussi de mon côté. Et donc on a ouvert aussi à ça. Donc il y a une danseuse qui vient du hip-hop, il y a une championne de taekwondo acrobatique. Et il y a aussi une école de cirque qui s'est constituée dans ce passage-là, dans ces 15 ans. Et il y a aussi des artistes qui viennent de là.
FIC, réveille-toi.
Ça vient, en fait, on a travaillé avec le photographe londonien qui est d'origine marocaine, qui s'appelle Hassan Hajjaj, qui est un photographe vraiment incroyable parce qu'il est, c'est très 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 coloré en fait. Il apporte vraiment une image.
Il signe
du Maroc.
Les décors, et voilà, les, il fait les accessoires,
exactement,
les
la
costumes.
Scénographie et les costumes du spectacle. Et moi, je ne connaissais pas du tout le Maroc et la scène artistique marocaine. Et donc, on a beaucoup échangé avec, avec Sana au début sur tous ces artistes. Elle, elle avait envie de travailler avec lui depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite parlé parce qu'il y a un lien avec le cirque qui est très fort, le cirque classique, parce qu'il y a un contraste avec les couleurs, il y a une légèreté, il y a une vitalité, il y a un humour aussi, un détournement qu'on ressent tout de suite. Et donc, pour en arriver à Fic, je ne perds pas le fil, elle, voilà, lui, il a fait une œuvre, en fait, il a repris un détournement qu'on voit beaucoup au Maroc, un tag qu'il y a sur les panneaux stop, avec l'écriture donc stop en arabe, qui a une ponctuation. Et en fait, en changeant le point de place, ça se transforme en réveille-toi. C'est-à-dire que le panneau stop peut se transformer en réveille-toi. Et ça parle exactement voilà, du spectacle et de l'état d'esprit de cette nouvelle génération d'artistes acrobates marocains.
On écoute un extrait du spectacle.
Sir, sir, sir.
Là, on sent bien qu'il y a une énergie absolument incroyable. On n'a pas encore vu le spectacle, mais on l'entend tout de suite. On voit même les couleurs. On imagine du rose, du bleu, du vert qui pète. Et puis, toutes ces disciplines dont vous parlez. Marion Fouillant-Bousquet, qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est le renouvellement des formes du cirque.
Je trouve ça bien d'entendre Maroussia aujourd'hui nous parler de cette pièce qui arrive. Et que vous ayez eu l'idée de la mettre en regard des paroles de Marie sur le théâtre. Cette saison 2020-2021, elle est composée de 50% d'œuvres conçues et dirigées par des artistes femmes et 50% par des hommes. Donc voilà, le travail de Maroussia, moi je le découvre, il m'intéresse. On en a parlé en réseau, à nouveau, parce qu'on ne prend jamais une décision de programmation complètement seule. Donc il y a du travail avec le Pôle National des Arts du Cirque, à Alès. On réfléchit ensemble sur la création contemporaine circassienne. Avec le département de l'Aude, puisqu'il y a ce temps de cirque dans l'Aude. C'est des 10 ans cette année, donc il fallait une belle grande pièce. Donc effectivement, le 28 novembre, ça va être la fête à Narbonne. Ça nous a donné envie. Moi, je connaissais le travail du photographe que j'avais découvert au Maroc. Donc ça m'a beaucoup intriguée aussi qu'un travail de plasticien vienne au milieu d'un travail d'une artiste qui fait du cirque, mais qui en même temps travaille sur des questions vraiment de chorégraphie. Donc ces croisements des arts, tout ça, ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Et là aussi, on va découvrir la pièce. On a vu des extraits vidéo, puisque ça a déjà joué, mais peu en France. Donc là aussi, on est dans l'expectative. Le groupe acrobatique de Tanger, moi je le connaissais, dirigé aussi beaucoup par des hommes, notamment Aurélien Bory, qui est aussi invité cette saison. Et voilà, on est heureux de cette relève, on est heureux d'en être partenaire.
À très bientôt sur scène donc. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. C'était Tout Oui, un cycle d'émissions radio enregistrées au fil de la programmation de Théâtre plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne, en collaboration avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Marseillette. Prochain spectacle à ne pas rater, en plus des vôtres, Candide de Voltaire, mis en scène par Arnaud Meunier, et Jean-François Zigel, improvisation sur Bach. Prochain enregistrement en public, ce sera ici à Narbonne le 16 janvier. On vous donne rendez-vous à 16h avec Françoise Gillet de la Comédie-Française. D'ici là, restez informés, soyez tout ouïe.